Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans notre dernière lecture du livre « Le cerf-volant » de Laetitia Colombani aux éditions Grasset, nous avons assisté à la création de l'école dont Léna rêvait pour enseigner aux enfants de familles pauvres, que l'on nomme ici les Dalits ou les Intouchables. Un matin, Lalita a reçu des mains du porteur une enveloppe destinée à Léna et elle la lui apporte. Quelle émotion ! L'enveloppe est frappée du tampon de l'État. C'est l'autorisation officielle d'ouvrir l'école. Émotion, puis une grande joie. Tout cela est contagieux. Léna, Lalita, Priti et toutes les personnes qui sont présentes en cette journée. Une danse improvisée se forme autour du banyan dans la cour. Et pour parfaire cette ouverture, les filles de la Red Brigade suggèrent d'organiser une cérémonie habituelle ici pour invoquer la protection de Saraswati, la déesse de la connaissance et des arts. Le rituel qui se pratique habituellement lors de diverses occasions dans les foyers va se mettre en place ici et les futurs écoliers ainsi que leurs parents, les filles de la brigade, Kumar et les habitants du village, tous vont s'impliquer. Reprenons notre lecture pour ne rien manquer de cette célébration. Ce matin-là, la fillette met la dernière main à son ouvrage du jour lorsqu'elle voit le postier approcher. Elle reconnaît de loin son costume beige et sa casquette. Renonçant à pousser jusqu'à la boîte aux lettres, l'homme lui tend un courrier adressé à Léna. La petite s'en saisit et court le lui porter dans la salle de classe, où elle s'applique à fixer un tableau noir au mur. Léna se fige à la vue de l'enveloppe frappée du sceau de l'État. Elle retient son souffle en découvrant le document tant convoité. L'autorisation officielle d'ouvrir l'école est enfin là. Elle laisse éclater sa joie et prend Lalita dans ses bras, tandis que Priti accourt, alertée par le bruit, suivie de sa troupe au grand complet et d'une flopée de gamins du quartier. Une danse est improvisée autour du grand banyan dans la cour qui n'a jamais été aussi animée. Pour fêter la fin des travaux et l'ouverture prochaine de l'école, les filles suggèrent d'organiser une cérémonie. Il est d'usage, en effet, ici, juste avant la rentrée, d'invoquer la protection de Saraswati, la déesse de la connaissance, de la sagesse et des arts. Les manuels scolaires et les futurs cahiers sont disposés devant une image de la divinité afin que sa bienveillance accompagne l'élève tout au long de l'année. D'ordinaire, chaque famille accomplit ce rituel au sein de son foyer, mais le matériel est cette fois réuni dans la salle de classe, près d'un tableau de la déité à quatre bras, assise en lotus, en train de jouer de la vina, une sorte de luth indienne. Les futurs écoliers et leurs parents sont conviés, ainsi que Kurmar et tous les habitants du village qui ont apporté leur aide au projet. Pour l'occasion, la cour et la petite bâtisse sont décorées de guirlandes, d'œillets et de jasmin. Ces célèbres mahalès hindous dont on orne les maisons et les temples et que l'on dépose au pied des statues des dieux pour les honorer. La vieille veille de la célébration, celles qui savent cuisiner préparent des mets traditionnels dans de volumineux chaudrons. Du sambar aux légumes, un plat typique du sud à base de lentilles et d'épices. Du porial, un curry de légumes secs rissolés en grande quantité. Du min kosambu, un curry de poisson réalisé à base de jus de tamarin, agrémenté d'ail et de piment, et des méduvada, ces petits beignets dorés dont les enfants raffolent et que l'on accompagne de yaourts crémeux et de coconut chutney. Tout en jetant les boules de pâte de lentilles dans l'huile bouillante, l'une des jeunes cuisinières raconte cette fable populaire que tous connaissent ici, le corbeau et le vada. S'étant emparé d'un vada qu'une vieille femme vendait dans la rue, un corbeau s'apprête à le dévorer, perché sur une branche, lorsqu'un renard survient. Comprenant que le volatile n'a nulle intention de partager son butin, l'animal rusé entreprend de le flatter et lui demande de chanter. Ouvrant le bec, le corbeau voit choir le succulent beignet jusque dans la gueule du renard qui l'engloutit aussitôt. Moralité, il ne faut jamais chanter lorsqu'on mange un vada, conclut la cuisinière d'un air enjoué. L'assemblée rit, tout comme Léna, surprise par cette version tamoule du célèbre récit. Si La Fontaine s'est inspirée d'Ésope, elle se demande qui, du poète grec ou du conteur indien, s'est permis d'emprunter à l'autre. La fête bat son plein tout au long de la journée. Léna contemple, comme dans un rêve, les habitants du village s'agitaient dans la cour, les enfants se relayaient sur la balançoire, les curieux se pressaient vers la salle de classe, devant les livres et le tableau noir fraîchement accrochés. Léna sait que l'aventure ne fait que commencer, que tout reste à accomplir, que mille difficultés ne manqueront pas d'advenir. Mais aujourd'hui, elle veut seulement se réjouir, profiter de cette victoire, savourer les vadas, le sambar et le chai épicé au milieu des rires et des chants du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Ce n'est qu'après la fin des réjouissances, lorsqu'elle se retrouve seule dans l'école redevenue silencieuse, que le coup lui est porté. Un choc, asséné par le calendrier. Dans l'effervescence des semaines et des mois qui ont précédé, elle n'a pas voulu y penser. Bien sûr, elle sait qu'en Inde, l'année scolaire commence début juillet, mais elle n'a pas imaginé que la vie lui jouerait un tour si cruel. Par un étrange caprice du sort ou du destin, qui sait, même si elle ne croit plus aux signes, l'école ouvrira ses portes 2 ans, jour pour jour, après la mort de François. Le drame lui revient soudain comme un boomerang. Il la terrasse et la foudroie, balaie son enthousiasme, sa volonté, son énergie. De toutes ses forces, elle a tenté de lutter. Elle s'est battue contre vents et marées. Mais la vague est trop puissante aujourd'hui. Elle la submerge et l'emporte vers le large, comme le courant ce jour-là sur la plage. Hélas, il n'y aura pas de cerf-volant, pas d'ange gardien, pas de brigade pour la tirer du piège où elle se sent glisser. Elle n'est plus qu'une femme écrasée, anéantie, rattrapée par des démons qui l'entraînent et la tirent vers un gouffre sans fond. Un petit retour en arrière. Chers auditeurs, les 7 pages que je vais lire sont une évocation de ce qui s'est passé 2 ans en arrière pour Léna. Écoutez. Bouguenay, banlieue de Nantes, 2 ans plus tôt. Le cri strident de la sonnerie retentit. Aussitôt, les portes des classes s'ouvrent, libérant des cohortes d'adolescents surexcités qui se ruent en trombe dans les couloirs, les escaliers, tels des cataractes d'eau déferlant vers la sortie dans un fracas assourdissant. C'est le dernier jour de l'année, un soulagement pour certains, le début de l'ennui pour d'autres. Il fait chaud en ce mois de juillet. dans la salle qu'elle occupe au deuxième étage du bâtiment principal, Léna range ses affaires et nettoie le tableau. Elle remet en ordre les chaises laissées en pagaille près des tables couvertes d'inscriptions. De ce collège où elle enseigne depuis tant d'années, elle connaît chaque recoin. Il est sa seconde maison, l'endroit où elle passe le plus clair de son temps. Elle fait quelques pas dans le couloir jusqu'au laboratoire de sciences où s'active généralement François. La pièce a été rangée pour l'été. Les tubes à essai, microscopes, éprouvettes et autres béchères ont été placés dans les armoires près du squelette Oscar. Il n'y a plus personne. François a dû rejoindre les autres au rez-de-chaussée dans la salle des professeurs pour prendre un café. Ils ont l'habitude de rester discuter en fin de journée avec Thibaut, Leïla et ceux qui se trouvent encore là. Certains de leurs collègues sont devenus de proches amis. Ceux-là ne sont pas du genre à s'épancher sur les vicissitudes du métier, les conditions de travail, les incivilités des élèves ou les classes surchargées. Ils préfèrent commenter l'actualité, parler de tout et de rien, et surtout de la vie, celle qui les attend au-delà des grilles de l'établissement. Léna descend l'escalier quand les coups résonnent. Au début, elle pense à des pétards jetés dans la cour par quelques plaisantins. Mais des cris s'élèvent, terrifiés, qui lui glacent le sang. Elle ne met pas longtemps à comprendre que les bruits secs, brutaux et précis qu'elle vient d'entendre proviennent d'une arme à feu, un revolver ou un fusil. Un vent de panique agite le rez-de-chaussée. Ceux qui le peuvent tentent de remonter dans les étages, de se réfugier dans les salles, les toilettes, le local technique, l'atelier de technologie ou la chaufferie. Léna sent une main la gripper, la tirer en direction du laboratoire qu'elle vient de quitter. Sa collègue Nathalie l'a empoignée et l'entraîne derrière les placards. De là où elle est, Léna ne voit qu'un pan du couloir masqué par la lugubre silhouette du squelette derrière lequel elles se sont réfugiées. Sombre présage. François est en bas, elle le sait. Bientôt, le silence se fait. Non pas un silence rassurant, mais un calme angoissant qui porte en lui l'écho d'une tragédie. La suite se passe comme dans un film au ralenti, un cauchemar éveillé dont Léna voudrait s'échapper. Ce qu'elle voit en descendant restera gravé dans son esprit à jamais. Le corps de François, allongé, sans vie, au milieu du grand hall du rez-de-chaussée, près du proviseur adjoint que les secours tentent de réanimer, au milieu d'une foule indistincte où se mêlent professeurs en état de choc et élèves tétanisés. Il s'appelle Lucas Meyer. Ici, tout le monde le connaît. Léna le côtoie depuis 2 ans en cours d'anglais. Elle a rencontré ses parents. Un adolescent sans histoire, du moins jusqu'à ce jour. Pour expliquer son geste, les médias voudront dresser le portrait d'un garçon fragile renfermé. Ils rechercheront à le cataloguer, à lui coller une étiquette dans une vaine tentative de rendre l'événement plus compréhensible ou, d'une étrange façon, plus acceptable. La vérité est plus troublante. Lucas n'est ni psychotique ni schizophrène. Il a des amis, une vie sociale que d'aucuns qualifieraient de normale. Il est bien intégré, il n'a pas subi de traumatisme, de mauvais traitements, ni d'abus répétés. De lui, on dira tout et son contraire. Les spécialistes évoqueront le divorce de ses parents, les rapports conflictuels avec son père, la crise d'adolescence, l'influence des films et des jeux vidéo, la structure scolaire inadaptée, le rejet des figures incarnant l'autorité. On parlera d'une combinaison complexe de facteurs environnementaux, familiaux et individuels. Des mots savants pour dire « au fond, on ne sait pas ». Le réel échappe à toute tentative de classification. On passera au crible le déroulé des semaines qui ont précédé. Une altercation avec le proviseur adjoint au sujet d'un portable confisqué. Un conseil de discipline, une exclusion temporaire ayant certainement provoqué un sentiment d'injustice et d'humiliation. Rien d'exceptionnel, à dire vrai. Pour quelle raison le jeune homme est-il revenu se venger le dernier jour de classe, après avoir dérobé la carabine de chasse de son père? Il se dirigeait vers le bureau du proviseur lorsque François a tenté de s'interposer pour le raisonner. On ignore pourquoi Lucas s'est mis à tirer. Qui a failli? À quel moment? Aurait-il pu en être autrement? La question sera creusée, approfondie, analysée par les spécialistes de tous bords qui tous émettront un avis. Les journalistes s'appliqueront à relater l'événement des jours durant, à travers les reportages, des débats, des émissions, des interviews et des témoignages. Pour Léna, la vie bascule. Il y a d'abord l'effroi, l'incrédulité, la colère avant l'effondrement. Dans les semaines qui suivent, elle reste chez elle, les volets clos. Elle ne sort plus, éteint le poste de radio et la télévision qui, sans cesse, la ramène à la tragédie. Les messages de soutien qu'elle reçoit de sa famille, de ses collègues et amis sont impuissants à l'aider. Leurs attentions sont un constant rappel de ce qui s'est passé. Elle a du mal à se concentrer sur une quelconque activité. Son esprit est accaparé par les faits, colonisé, envahi. Des crises de tachycardie la tiennent éveillée tard dans la nuit. Elle se noie dans un océan de rumination, ne peut s'empêcher de se demander ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle aurait dû voir, ce qu'elle n'a pas su déceler dans l'attitude du jeune garçon. Elle était opposée à son exclusion. Elle l'avait dit, sans se douter toutefois des conséquences de cette sanction que le conseil de discipline a pourtant validée. Elle aurait dû se battre davantage, insister. Cette certitude la plonge dans un abîme sans fond. Depuis quelques années, Léna s'investissait moins au collège. Elle manquait d'allant et d'entrain. Elle n'avait pas renouvelé les ateliers qu'elle se plaisait jadis à animer. Elle se montrait moins disponible, moins investie, moins à l'écoute sans doute. Une forme de lassitude, des conflits répétés avec l'administration, le manque de moyens, le sentiment de lutter parfois contre des moulins à vent avait émoussé son engagement. Elle aimait toujours son métier, mais ne l'exerçait plus avec la même passion, ni la même énergie. Est-elle coupable? Aurait-elle pu changer le cours des événements? Quelle était sa marge de manœuvre dans le drame qui s'est joué? Autant de questions sans réponse qui l'anéantissent, ouvrent en elle une béance qu'elle se sent incapable de refermer. Un soir, elle rédige sa lettre de démission. Elle ne peut envisager de continuer à enseigner, encore moins de retourner au collège. Longtemps, elle évitera même le quartier. Le drame a torpillé sa vocation. En quelques instants, il a balayé les 20 ans qui ont précédé, les moments partagés avec ses élèves, ses amis, les spectacles, les sorties, les discussions autour de la machine à café, les déjeuners à la cantine où on refait le monde et la vie. Il faut partir, se sauver. Léna a besoin de prendre du recul, de donner de la profondeur de champ à sa vie. Elle sent qu'un cycle vient de s'achever et se demande ce qui l'attend désormais. Ce n'est pas une fuite, une décision irréfléchie, écrira-t-elle à ses proches qui s'inquiètent pour elle, mais un voyage pour tenter de se reconstruire. Elle ira là-bas, en Inde, dans ce pays que François aurait tant aimé visiter. Certains essayaient de l'en dissuader. Ils convoquent la pauvreté endémique, le manque d'hygiène, la mendicité, craignant qu'elle ne soit pas en état de les supporter. Ils lui recommandent plutôt la montagne, le sud de la France ou la Méditerranée. Léna ignore leurs protestations. Il ne s'agit que d'un mois, conclut-elle pour les rassurer. Un mois en forme de thérapie. Un mois pour une tentative de survie. Troisième partie, la vie d'après. L'éducation n'est pas une préparation à la vie, l'éducation est la vie même. John Dewey. Chapitre 18. Village de Mahabalipuram, Tamil Nadu, en Inde. L'école vient d'ouvrir ses portes. Dans la salle de classe, Léna observe le cœur battant, les enfants assis devant elle. Elle se sent aussi émue qu'au lendemain de ses 22 ans, à ses débuts, lorsqu'elle était pour la première fois dans l'établissement où elle venait d'être nommée. Le public ici est bien différent, et le décor tout autre. En face d'elle, les petits ont entre 6 et 12 ans, une classe unique pour cette première rentrée. Des tapis neufs recouvrent le sol. Les murs fraîchement repeints attendent les cartes de géographie, les reproductions de lettres et de symboles mathématiques que les professeurs ne manqueront pas d'y accrocher. Pour l'instant, seul un mandala coloré orne le mur du fond. Sur celui de devant trône un tableau immaculé. Parmi les écoliers se tient Lalita. Elle est jolie, avec ses yeux noirs et ses cheveux tressés. Et puis cet uniforme qu'elle semble si fière de porter. Comme ses camarades, elle fixe Léna qui se présente à la petite assemblée. Elle dirige l'école et assurera les cours d'anglais. À sa suite, Kumar prend la parole. Il sera leur instituteur tout au long de l'année. Vient ensuite Priti, que la plupart connaissent déjà. Elle se chargera de l'éducation physique et les initiera au sport de combat. Les élèves les dévisagent tous les trois sans un bruit. La plupart ont l'air effrayés. Le plus jeune du groupe, Sedou, paraît absolument terrifié. Il s'est installé près de la porte et se met à trembler quand Léna tente de la refermer. On dirait qu'il redoute quelque menace invisible prête à s'abattre sur lui et veut pouvoir fuir à tout moment. Compréhensive, Léna décide de laisser la porte ouverte, au moins pour la journée. Aucun de ses enfants n'a jamais été à l'école, pas plus que leurs parents. Elle ignore ce qu'ils ont entendu, ce qu'on leur a raconté. Elle sait qu'en Inde, les écoliers sont souvent frappés par leurs maîtres, surtout lorsqu'ils sont de basse extraction. Pour les rassurer, elle leur explique qu'ici, ils ne seront pas battus. Les enfants l'écoutent mi-incrédule, mi-étonné. Le lendemain, le même jeu recommence. Impossible de refermer la porte sans provoquer la panique de ses doux. Au bout de quelques jours, Léna réunit les familles dans la cour, sous le banyan. Elle confie que certains petits sont terrorisés et qu'ils ne peuvent pas travailler ainsi. Ils doivent comprendre qu'à l'école, ils ne seront pas maltraités. Dans l'assemblée, tous paraissent surpris. La mère de Sédou, une femme d'à peine 20 ans qui a déjà 4 jeunes enfants, prend la parole pour protester. Léna ne tirera rien de ces gamins sans l'usage des coups, affirme-t-elle. Il faut les taper pour qu'ils obéissent. Tu dois les taper, institue-t-elle. Elle lui donne plus que son aval, sa bénédiction pour frapper Sédou. Les autres acquiescent et ils renchérissent. Léna demande le silence et se fait plus clair. Dans son pays, on ne bat pas les élèves. On a d'autres méthodes d'enseignement. En 20 ans de carrière, elle n'a jamais levé la main sur qui que ce soit et n'a pas l'intention de commencer ici. Sceptique, la mère de Sédou renifle bruyamment avant de héler tout à la fois ses chèvres et ses enfants dispersés dans la cour. « Et fais comme tu veux, » conclut-elle en partant, « mais tu n'y arriveras pas. » Léna reste sans voix. Elle ne peut blâmer ses parents, eux-mêmes héritiers d'une éducation basée sur la peur et les coups. Si frapper un enfant ne prend qu'une seconde, il est bien plus long de gagner sa confiance. Elle sait qu'elle devra faire preuve de patience pour apprivoiser le petit garçon et ses camarades, instaurer un dialogue fondé sur le respect et la réciprocité. La porte de la classe restera ouverte aussi longtemps qu'il le faudra. Qu'importe si, parfois, un chien errant fait irruption à la recherche de quelques restes à mendier. Un jour, Sédou se lèvera de lui-même au milieu d'une leçon d'anglais et il ira fermer la porte. Léna ne dira rien. Elle ne fera aucun commentaire. Mais elle saura alors qu'elle a remporté une victoire, que ses élèves se savent maintenant en sécurité auprès d'elle. Cette porte fermée sera le gage de la confiance accordée, la certitude que l'école leur offre plus qu'une éducation, un îlot de calme et de paix à l'abri de la rudesse du monde. Convaincre les parents sera plus long. Il n'est pas aisé de détresser des habitudes si profondément nouées. Léna s'y emploiera, jour après jour, avec persévérance et volonté. Chaque coup évité est un petit pas, se dit-elle, un pas dérisoire et pourtant essentiel. Kumar trouve rapidement sa place auprès des enfants. Il est difficile de croire qu'il n'a jamais enseigné. À le voir déambuler dans la classe, on pourrait penser qu'il y est né. Passé l'appréhension des premiers jours, les écoliers comprennent vite qu'il ne sera pas leur ennemi, mais leur allié. En dépit de son jeune âge, Kumar sait se faire respecter tout en restant bienveillant. Il n'élève jamais la voix, il se montre pédagogue et patient. Il arrive tôt chaque matin, invariablement chargé de son cartable rempli de livres et de cahiers, et il reste tard, après la fin des cours, à corriger des exercices, mettre au point les leçons du lendemain. Par la fenêtre entr'ouverte, il observe parfois l'entraînement de la brigade sous le banyan en fin d'après-midi, intrigué par le ballet de ses filles qui répètent 100 fois les mêmes mouvements sous l'œil exigeant de Pretty. De son côté, la chef ne lui prête aucune attention. Elle se contente de le saluer froidement. On dirait qu'elle cherche à l'éviter. Lena sait que Pretty lui en veut d'avoir ignoré ses réticences. Mais, à dire vrai, elle ne regrette pas son choix. Kumar est à la fois compétent et apprécié des enfants. Il n'est pas rare de les voir se presser vers lui dans la cour afin de lui faire découvrir quelques jeux ou quelques nouveaux tours. Contrairement à Pretty, certaines filles de la brigade ne sont pas insensibles au charme de l'instituteur. Kumar est élancé, bien fait de sa personne. Il a les traits fins, les yeux noirs, une barbe de quelques jours qu'il prend soin d'entretenir. Il est discret, courtois et cultivé. Lorsqu'il s'éternise à l'école, les lieutenantes sont étrangement moins concentrées. Elles se mettent à rire, échangent des plaisanteries, interrompent l'échauffement pour le saluer, ce qui ne manque pas d'exaspérer Pretty. Quelqu'un parviendra-t-il un jour à dompter ce tempérament si farouche ? Se demande Lena en observant la jeune chef. On dirait un cobra prêt à mordre et à attaquer. Pretty a coutume de dire que l'homme qui la prendra dans ses filets n'est pas encore né. À presque 22 ans, elle est toujours célibataire. Une situation exceptionnelle dans le village où les filles sont souvent mariées avant leur majorité. Qu'importe, Pretty ne veut pas entendre parler d'union. Elle a échappé au joug de ses parents. Ce n'est pas pour se soumettre à celui d'un époux, affirme-t-elle. Elle est indépendante et libre et entend le rester. Lena pourrait jurer, toutefois, qu'en dépit de ce discours, elle ne demande qu'à être surprise et défiée. Au sein de la petite école, Lena découvre la vie en communauté. Les enfants et leurs familles n'hésitent pas à venir la solliciter, débarquant dans sa cahute à toute heure. Elle comprend vite qu'elle va devoir doter sa porte d'une serrure et d'une clé. Ici, les habitations n'en sont pas équipées. Non qu'elle redoute les vols ou les intrusions, mais plutôt parce qu'elle a besoin de calme et d'un peu de quiétude après de longues journées. Certains élèves arrivent tôt le matin, espérant glaner un semblant de petit déjeuner. Chez eux, on ne mange qu'une fois par jour, un véritable dalle de lentilles, souvent clairsemées. En attendant le repas du midi préparé par Rada, une fille du village recrutée pour assurer la cantine, Lena sert du chai et quelques idlis au premier lever. Elle a même appris à cuire les chapatis sur le chulhal qu'elle a fait installer, un four de bois traditionnel indien. Ils doivent être parfaitement circulaires, lui a dit Rada. C'est ainsi la qualité d'un chapati se mesure à sa rotondité. Ne demande pas pourquoi c'est comme ça, a-t-elle ajouté. Ici, il ne faut pas chercher de raison aux choses, a coutume de dire Pretty. À la pause déjeuner, les élèves s'installent dans la cour sous le banyan. Ils s'assoient par terre comme tous le font ici pour partager de grands plats de riz, de sambar et de dal, accompagnés de nants et de dosas, qu'ils dévorent avec appétit. Ils reçoivent également des fruits que certains remportent chez eux. Lena prend plaisir à les voir manger ainsi. Elle sait que dans le pays, près de la moitié des petits Indiens souffrent de malnutrition. Ses élèves, eux, ont l'estomac plein et cette pensée la réjouit. Dans cette cantine improvisée, chacun met la main à la pâte. Lalita est toujours la première levée pour aider. Elle n'a pas son pareil pour débarrasser les gobelets et les plats, aguerris par ses années d'expérience au daba. La fillette semble apprécier son nouvel environnement. Elle se montre active, consciencieuse et enjouée. Lors des récréations, elle se mêle volontiers aux autres. Son silence ne l'empêche pas de communiquer avec eux, ni de partager leurs jeux. Elle se fait bientôt une amie, une jeune fille du nom de Janaki. Ces deux-là ont le même âge et le même gabarit, si bien qu'on pourrait les croire sœurs. Elles deviennent vite inséparables. Elles s'assoient côte à côte dans la salle de classe, se prêtent les livres et les cahiers, s'entraident lorsque l'une d'elles bute sur un exercice. Elles se comprennent sans parler à l'aide de gestes et de signes. Léna est heureuse de voir sa petite protégée tisser des liens amicaux et s'intégrer au groupe en train de se former. Lalita n'est pas la dernière à s'amuser. Elle se révèle même redoutable lors des parties endiablées de Coco, un jeu de poursuite en équipe, que Priti organise entre les écoliers. Léna se surprend à aimer ce désordre, ce bouillonnement permanent, cette ébullition faite de mouvements et de bruits qui n'offrent jamais de répit. « L'Inde, c'est le chaos !» répète Priti, et Léna songe qu'elle dit vrai. Elle est venue ici, cherchant l'exil et le silence. Elle a trouvé le contraire de ce qu'elle attendait. Dans ce village, la vie lui offre une deuxième chance. Entre les murs de la petite école, une nouvelle ère commence. Après cette fête magnifique, fort bien préparée et vécue par tous, pour Léna, tout va malheureusement se terminer plus tard dans la tristesse. Elle n'avait pas prévu cette remarque, cette ouverture d'école qui lui tenait tant au cœur. C'est fait un jour qui ne peut que troubler Léna. La porte de l'école s'ouvre 2 ans, jour pour jour, après la mort de François. Le souvenir de cette terrible perte lui revient et elle est écrasée par le chagrin. Elle quitte pour un temps la France pour aller en Inde, pays que François lui-même aurait aimé visiter. Mais on n'arrête pas le temps. Et enfin, l'école sera ouverte, mais le début n'est pas facile. Avec l'aide de tous, l'école est ouverte et notre prochaine lecture nous en dira plus. N'oubliez pas d'écouter la suite sur Radio Alliance Plus 103.2 FM en direct les mercredis, mardis 21h30 et rediffusion les lundis et mardis de la semaine suivante à 6h. N'oubliez pas surtout, écoutez l'émission « Je lis pour vous ». Bientôt, chers amis.